Les informations, Jacques Matangiami. Okapi.
Depuis les studios Jérôme Gongo de Radio Capi, la une de l'actualité de ce vendredi 23 juin 2006, la population du regroupement de Bananindi au Nord Kivu passe depuis deux semaines la nuit dans la forêt par crainte des représailles et des pillages des hommes du colonel insurgé connu sous le nom de 106. Dans ce journal, nous aurons le témoignage du chef de ce groupement. L'hôpital Bibanga au Kasaï Oriental, au centre d'une polémique, l'association d'entente mutuelle de Bakwakanda accuse le gestionnaire de l'hôpital de pillage systématique et de destruction volontaire des bâtiments. Et puis une vingtaine de familles d'ex-agents chez Camine ont été déguerpies ce jeudi des maisons qu'ils occupaient à Kolwezi, à près de 300 km à l'ouest de Lubumbashi, province du Katanga. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la population du groupement de Bananindi en territoire de Walikale passe depuis deux semaines la nuit dans la forêt. Selon les chefs du groupement de Bananindi, la population a dû fuir les pillages et les représailles des hommes du colonel insurgé surnommé 106. Selon la même source, la 85e brigade basée dans le secteur n'a pas pu résister devant la force du colonel insurgé 106. Témoignage du chef du groupement, Muhombo Mahangaïko.
Ce sont les militaires du colonel 106 qui sont arrivés dans notre village. Ils ont tout pillé, les biens des populations. Je t'affirme que pour le moment, la population passe la nuit dans la forêt. S'il pleut, nous souffrons. Moi, chef, je suis présentement avec ma famille entre les mains de mon chef du territoire à Walikale. Nous demandons que vous puissiez nous aider. Nous voulons une force pour nous libérer, qu'on puisse vivre comme les autres. Nous souffrons en brousse.
Sud Kivu à Bukavu, les militaires invalides blessés de guerre manifestent depuis quatre jours sur les artères principales de la ville pour réclamer ce qu'ils appellent fonds de ménage. Hier, ils ont bloqué la route à Panzi et demandé de l'argent aux conducteurs de véhicules. Mercredi dernier, ils avaient manifesté devant le bureau de la 10e région militaire dans le centre-ville de Bukavu. Michel Chirimwami.
Ils étaient plusieurs dizaines de militaires invalides et des blessés de guerre à manifester cette semaine dans les rues de Bukavu. Ils réclament le paiement du fonds de ménage promis selon eux par le général Kisempia, chef d'état-major, en avril dernier. Capitaine Mashauri Mugunda, commandant de l'unité des blessés de guerre à Panzi.
Les militaires blessés que vous voyez debout ici viennent réclamer leurs droits au fonds de ménage. Comme l'avait promis le chef d'état-major général, à partir du mois d'avril ici à Bukavu, on devait commencer à recevoir 11 dollars américains. Jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu.
En effet, lors de sa visite, le général Kisempia avait promis d'augmenter les fonds de ménage de 6 dollars américains à 11,6 à partir du mois de mai. Mais selon le porte-parole de la 10e région militaire, les fonds de ménage n'est pas octroyé aux militaires en tant qu'individu, mais en tant que corps. On écoute le lieutenant Kassan.
Cet argent-là, les 11 dollars dont il est question, ne sont pas des sommes à remettre individuellement aux militaires, mais c'est l'argent qui va servir de la cuisine collective. Et qui doivent bénéficier de la cuisine collective? Ce sont des militaires en activité.
La 10e région militaire a indiqué qu'elle prévoyait des sanctions contre des officiers soupçonnés d'être à l'origine de ces manifestations. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
District de l'Ituri, province orientale, améliorer les relations entre les FRDC avec la population civile, les agences humanitaires et la presse. Tel était l'objectif de l'échange organisé par Irène Smaïd, chef du bureau HCR HCR Bounia, avec une dizaine d'officiers FRDC. Cette rencontre a eu lieu mercredi dernier à Veba, localité située à 70 km au sud de Bounia. Des détails avec Alain Irung Mouchinj.
Il s'agissait de discuter sur des cas de figure précises tels que une patrouille des FRDC tombe sur un groupe de personnes non armées. Le soldat en charge de la patrouille a des soupçons que quelques-unes de ces personnes sont des miliciens. Que fait-il? Ou encore, une ONG visite la zone où est stationnée une compagnie FRDC. Du point de vue de l'officier en charge, quel type d'interaction est souhaitable entre le personnel de l'ONG et les soldats? Notons que la mission humanitaire conjointe HCR, PAM, UNICEF, OCHA et Save the Children a dénombré près de 6000 déplacés à Aveba où est basée la 6e brigade FRDC. Pour Irène Schmid, chef de bureau HCR Bounia, il s'agissait d'ouvrir un dialogue avec les FRDC pour mieux se connaître et éviter les malentendus.
Il y a une complexité de la situation qui veut qu'on partage les analyses et puis on essaie de comprendre la position des FRDC, qu'ils comprennent la nôtre et comme ça on peut éviter les malentendus et puis construire une relation de travail qui est efficace.
Massimo Nicoletti, chef de bureau UNICEF Bounia, qui participait aussi à cet échange, a affirmé que cette expérience peut améliorer les rapports entre les FRDC et les agences humanitaires. Pour leur part, les officiers FRDC ont jugé positif cet entretien qui est le premier du genre en Ituri. Ils ont même souhaité approfondir ce genre de réflexion. Signalons que certains officiers sont venus des localités voisines de Bokoro et de Tchéi. Alain Irung, Bounia, Radio Okapi.
Restons dans ce district. En bref, l'ONG internationale Médecins sans frontières lance un cri d'alarme en faveur des populations des localités frappées par la peste pulmonaire. Dans un communiqué repris par l'AFP, cette organisation appelle les agences humanitaires à des interventions d'urgence de peur que l'épidémie se répande rapidement dans la région. Les dernières statistiques enregistrées la semaine dernière font état de 22 décès sur 144 cas identifiés en moins de 3 semaines. Selon les médecins épidémiologistes de l'OMS à Bounia, une équipe de prise en charge des malades a été dépêchée dans les localités de Bouba et Pandroma il y a de cela 2 semaines. Province du Kasaï oriental, territoire de Katanda, l'hôpital de Bibanga est au centre d'une polémique. L'association d'entente mutuelle de Bakwakanda accuse les gestionnaires de l'hôpital presbytérien des pillages systématiques et des destructions volontaires des bâtiments. De son côté, l'administrateur général de l'établissement affirme qu'il s'agit d'une manipulation de la part des fidèles excommuniés. Le point avec Billy Yvon Lutumba.
Dans une lettre adressée à l'autorité provinciale, l'association d'entente mutuelle de Bakwakanda se plaint de la dégradation très avancée des infrastructures du centre missionnaire presbytère de Bibanga. Ils accusent les gestionnaires de l'hôpital d'user d'une gestion malsaine de la chose publique. Pierre Mbié Bakmanyabou, président de cette association.
Les autorités qui gèrent cette station sont en train de piller l'hôpital, tout ce qui se trouve à Bibanga. On a pris les photocopieuses, les phonies, sans citer l'échographie. Il y avait un groupe électrogène, on a emporté. On a détruit les maisons, on a récupéré les tôles, les planches.
Joint par téléphone, Joseph Lukanga, administrateur gestionnaire de l'hôpital, rejette toutes ces accusations. Il ajoute que la communauté de Bakwakanda fait acte d'ingérence dans cette affaire et qu'elle s'est laissée manipuler.
Il est important d'effectuer une descente à Bibanga pour réaliser une enquête. Nous sommes une communauté organisée. Nous connaissons que les Bakwakanda, ils sont en train de se plaindre. Ils sont soutenus par des membres dissidents de notre communauté. Ils sont excommuniés et ils veulent utiliser les Bakwakanda pour exercer un contrepoids. Les malades sont soignés, il y a des chirurgies qui se réalisent sans peine parce qu'on a un équipement correct. Il y a un agenda caché derrière cette accusation.
Pour Patrick Balouba, vice-gouverneur de province, cet hôpital qui a fait longtemps la fierté du Kasaï oriental connaît en effet des difficultés. Pour lui, un problème de leadership au sein de la communauté presbytérienne pourrait être à l'origine des accusations. Il a transmis le dossier au ministère de la Justice pour instruction. Billy Van Lutumba, Bougie Radio Okapi.
Kasaï occidental, le projet d'électrification de la ville de Kananga pose encore des problèmes. La commission d'évaluation envoyée cette semaine par la présidence de la République, qui finance en partie ces projets, a constaté que les travaux de construction du barrage n'avancent pas normalement. C'est là par rapport à la proportion du financement de 4 millions de dollars déjà libérés. Emmanuel Libendele, conseiller à la présidence, dit sa déception.
L'impression est que les travaux n'avancent pas au rythme que nous avons prévu. Les équipements qui ont été amenés sont très vétustes et d'une capacité faible. Ils ne permettent pas d'assurer une évolution et une exécution normale des travaux. Il n'y a pas longtemps, au mois de février, nous avons donné suffisamment de moyens pour accélérer les travaux. En principe, il nous fallait 6 millions de dollars et aujourd'hui, nous avons déjà disponibilisé 4 500 000. Ce qui fait que la partie congolaise est en avance par rapport au financement. Il y aura une discussion au regard du constat que nous avons fait pour tirer les conséquences nécessaires.
De son côté, l'entreprise sud-africaine Klaxon Power, qui avait promis l'exécution du projet en moins de 2 mois, attribue le retard enregistré à la partie congolaise. Elle promet toutefois de mener le projet au bout malgré les obstacles. Andy Paluku, directeur général de Klaxon Power, qui s'exprime.
Mais depuis le mois de février qu'on a débloqué 2 500 000 dollars pour le projet ici. Mais de cette argent-là, nous n'avons eu que 800 000 dollars. Le montant ressort toujours le jeu dans les comptes communs, ils ne veulent pas libérer ça. C'est ce qui fait que le rythme du travail n'est pas proportionnel. C'est eux-mêmes qui sont en train de causer des retards. À notre niveau, nous n'allons pas arrêter. Avec ou sans la contribution de la partie congolaise, nous allons terminer justement le projet. Nous avons déjà investi beaucoup d'argent dedans. Nous avons le devoir de terminer ce projet-là. C'est pour ce défi justement qu'on a. Nous allons le faire dans les 12 mois qui vont venir.
C'est un dossier réalisé par Basile Bakumbane. À Kinshasa, Ouverture ce matin du colloque sur la social-démocratie à l'hôtel Memling. La social-démocratie est un courant de pensée sur la manière de gérer l'État. Elle est au milieu entre le libéralisme économique et le capitalisme et le collectivisme dogmatique, c'est-à-dire le socialisme. Ce colloque qui va durer du 23 au 25 juin 2006 est organisé par le cabinet du chef de l'État. Encore une fois, toujours à Kinshasa, une cinquantaine des partis politiques et associations de la RDC ont lancé jeudi à Kinshasa le Front pour la défense du Congo, FDC en sigle. Cette plateforme s'est assignée comme objectif de réclamer des concertations politiques avant les élections du 30 juillet, à temps appris de l'AFP. Jean-Pierre Bemba, Joseph Olengankoy, Roger Lumbala, ainsi que l'UDPS, parti de l'opposition, font partie de ce regroupement. Province du Katanga, 12h11 à Kinshasa, une heure de plus. Une vingtaine des familles d'ex-agents Gécamines ont été déguerpies le mercredi dernier des maisons qu'ils occupaient dans la cité de Gécamines à Kolwezi, à près de 300 km à l'ouest de Lubumbashi. Ces ex-agents qui ont quitté la société dans l'opération départ volontaire affirment qu'ils occupaient ces maisons en attendant que la Gécamines leur paye leurs arriérés de salaire. Le point avec Paul Kaboba.
La Gécamines affirme ne pas être concernée par cette affaire. Selon M. Ilunga Booto, directeur d'exploitation adjoint de cette société pour le groupe Ouest, ces maisons ont déjà été vendues. C'est donc la justice qui aurait procédé à ce déguerpissement, car ceux qui ont acquis ces maisons ont certainement cherché à les récupérer par les voies de droit. Selon le DEX Gécamines Ouest, sa société ne doit plus de l'argent aux intéressés. Le premier substitut du procureur du parquet de Kolwezi affirme qu'un jugement avait déjà été rendu en faveur des nouveaux propriétaires. Mais à sa connaissance, le tribunal n'a pas décidé d'une action collective de déguerpissement. Selon le bourgmestre de la commune de Dilala, où se trouve la cité Kolwezi, le conseil de sûreté de la ville de Kolwezi a décidé, dans sa réunion de ce vendredi, de trouver un logis provisoire aux infortunés. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Bouclons cette page nationale dans la province de l'Équateur où l'Office des douanes et assises OFIDA s'organise pour réaliser les recettes demandées par le gouvernement. La direction provinciale réunit depuis hier tous les contrôleurs et receveurs de cette province, notamment ceux du sud et du nord Ubangi qui ont œuvré pendant plus de 5 ans sous l'administration du MLC. C'est pour leur donner des nouvelles directives de travail venant de Kinshasa après leur intégration dans cette entreprise. Quelle stratégie la direction provinciale a-t-elle arrêtée pour arriver à réaliser les recettes que la direction générale attend de l'Équateur? Faustin Mbenza, directeur provincial de l'Office Équateur, explique au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
La province était divisée en deux. Il y a des gens qui ont œuvré dans un esprit pendant la guerre et il y a d'autres qui étaient liés au gouvernement. La première stratégie, c'est la permutation des agents. Il faudra qu'on procède à des permutations des agents pour éviter que les agents qui étaient habitués à un mode de comportement puissent changer ce comportement. Et en plus, il faudra que ces agents soient formés. Et les anciens et les nouveaux qui viennent d'être intégrés subissent une formation à l'issue de laquelle ils seront plus aptes à réaliser leur mission. Il faudra qu'on puisse bannir les antivaleurs, notamment la corruption, la concussion, la fraude, les détournements, l'impunité des agents.
Une seule actualité en dehors de nos frontières, les négociations de paix entre le gouvernement burundais et la rébellion des Forces nationales de libération FNL ont repris ce vendredi en Tanzanie après une interruption de 4 jours. Ces négociations sous médiation sud-africaine interviennent après la signature dimanche à Dar es Salaam d'un accord de cessation des hostilités. Les deux parties s'engagent en outre à signer d'ici 2 semaines un cessez-le-feu total après 13 ans de guerre civile.